France Inter.
Bonjour, c'est Denis Chessoux. Parole de Piaf, un podcast en 6 épisodes. Prenez votre crayon rose, un flamand nous attend en Camargue.
Alors ici, c'est un espace d'eau stagnante, mais ici, surtout, c'est toujours avec jubilation que je reviens ici. Pourquoi ? Parce qu'on a en fait un patrimoine culturel historique incroyable avec les somptueuses remparts d'Aigues-Mortes, cette ville fondée par Saint-Louis au XIIIe siècle, avec cette fameuse tour de Constance qui a longtemps été un phare. Et puis en face de nous, on a également les Salins du Midi, où on produit le fameux sel La Baleine, et avec ces tables sonnantes qui produisent un rose éclatant, pourpre même. Ouais. Et il manquait jusqu'ici peut-être le joyau de l'avifaune méditerranéenne, donc de l'oiseau méditerranéen par excellence, à savoir le flamant rose qui désormais a établi sa colonie de nidification ici à Aigues-Mortes, et donc qui vient compléter à la fois le patrimoine culturel aigues-mortais, le patrimoine industriel des Salins, et désormais on a ce patrimoine naturel à portée de vue.
Direction le sud du Gard, sous un ciel immense porté par quelques piliers de montagne que l'on voit au loin. Donc bienvenue dans cette lumière, cher aux Provençaux et à Van Gogh. Et donc ce flamand, en fait, on le voit partout. Hein. C'est icône de la Camargue avec le taureau dont on a parlé, le cheval. Vous l'avez sur les boîtes à sel, sur des enseignes de boîtes de nuit au flamand rose, sur les mugs, les t-shirts, les casquettes, les ronds-points, que sais-je. Alors Raphaël Matevet, qui va être notre guide, est écologue et géographe au CNRS. Il a écrit avec Arnaud Béchet « Politique au pluriel du flamant rose » aux éditions Wall Project. C'est un bouquin qui est très très intéressant, vous allez comprendre pourquoi. Et je lui ai posé la question, donc, face à ces flamands, comment ont été introduits, donc ou réintroduits ces flamands.
C'est passionnant parce qu'en fait c'est vraiment une success story, comme il y en a eu peu dans la protection de la nature en France et ailleurs. Le flamant rose, il avait arrêté de nicher dans les années 50, début des années 60, dans le sud de la Camargue, dans les Bouches-du-Rhône, dans l'île de Camargue, sur l'étang, du côté de l'étang du Fangassier. On a décidé, donc c'est Luc Hoffmann, ornithologue suisse, qui s'est passionné pour cet oiseau avec Alan Johnson, un ornithologue britannique, et qui, en coopération avec les Salins du Midi, ont décidé de créer un îlot de reproduction, puisqu'en fait, avec la création des digues qui contiennent les deux bras du Rhône, désormais limitent les débordements, et également la digue à la mer qui limite les intrusions marines, on n'avait plus de processus sédimentaire écologique qui créait des îlots. Donc les îlots disparaissaient et des nouveaux îlots ne se créaient
donc
plus.
Donc on en a refabriqué, et c'est là en fait que pendant une quarantaine d'années, bien facilement, donc la nidification a réussi. C'est-à-dire que ça a été le mariage, on va dire, du côté industriel des Salins, et des associations, et aussi de cette fondation de la Tour du Valat, hein, donc de Luc Hoffmann.
Donc évidemment, la Tour du Valat a été déterminante dans la protection du flamant rose, en partenariat avec le WWF, avec la Société Nationale de Protection de la Nature et la Réserve Nationale de Camargue, le Parc Naturel Régional. Donc tous les acteurs camarguais et les Salins, évidemment, se sont unis. Et effectivement, la Camargue est devenue le bastion de la reproduction du flamant rose dans l'ouest méditerranéen. Et aujourd'hui, on peut dire que l'espèce est sauvé avec entre 200 et 300 000 oiseaux qui circulent dans l'ouest méditerranéen, la reproduction est garantie. On a veillé les oiseaux, on les a surveillés, on les a gardiennés, on les a étudiés scientifiquement. Et on a même limité les attaques par les prédateurs pour garantir un bon succès de reproduction. Et au final, ce flamant rose, il nous permet de questionner les différentes natures qu'on rencontre en Camargue, puisque souvent le discours général sur la Camargue, c'est que ça serait un espace sauvage, mais surtout une terre d'artifice. Du fait des aménagements humains qui se sont succédés au cours des siècles. En fait, ici, en Camargue, on a une diversité de nature. On a de la nature spontanée, autonome, qui ne doit rien à l'homme. Et puis, on a une nature qui est contrôlée, une nature qui cohabite, qui est quelquefois coproduite par les activités humaines dans l'espace agricole, dans les espaces de chasse, dans les espaces pâturés par les taureaux et les chevaux. Et puis, enfin, on a une troisième nature qui est une nature totalement sous contrôle, qui est une nature que moi j'appelle surcomposée, c'est-à-dire qu'elle a l'homme comme auxiliaire évidemment, mais elle doit tout à l'homme. Le jour où La personne qui gère cette propriété que tu vois là-bas au loin, ben, cette magnifique roselière qui doit sa présence ici, que tu peux penser que c'est un espace naturel. Le jour où ce monsieur arrête la station de pompage, arrête de pomper de l'eau douce dans le Rhône, en fait, en l'espace de quelques mois, de quelques années, la Sensuire qui est juste à côté va gagner oui. Et on va avoir ici, regarde, on a un magnifique bol de flamant rose au-dessus de nous. Le flamant rose, sa particularité, comme tu vois, c'est qu'il, avec ce trait de rose et ses ailes pourpres, il a la particularité, tu vois, d'éclairer le paysage d'un seul coup, et voire même de faire le paysage, tu vois, à lui tout seul.
Il interroge quand même sur le grand partage, ce flamant rose. C'est aussi d'ailleurs le thème de votre livre, hein, ça.
Oui, en effet, le flamant rose, il est intéressant parce qu'il est mobile, il se déplace dans le temps et dans l'espace, et il produit des réactions. Et en fait, cette mobilité du sauvage qui vient tantôt dans l'espace domestique, tantôt dans l'espace sauvage, tantôt dans les aires protégées, on a un oiseau qui amène à questionner la limite entre artificiel, naturel, ouais. entre domestique et sauvage. Et du coup, il questionne et il permet de révéler les rapports de force entre agriculteurs qui sont touchés par des dégâts agricoles, puisque le flamant rose
aime le riz
depuis quelques années, enfin depuis les années 80, et certaines années il peut avoir des dégâts assez importants dans les rizières, et on comprend forcément pourquoi les riziculteurs sont déçus et cherchent évidemment des indemnités. Et le flamant rose, du coup, il questionne, il nous pousse à réagir, et ce qui est fascinant avec le flamant, c'est que finalement, le flamand, il produit des règles, il nous amène à nous concerter, il permet de revisiter les relations entre les humains au sujet de la nature, et il conduit à revisiter également nos relations qu'on entretient avec cette nature sauvage et ce lieu-là particulier, puisque évidemment, comme on voit ici devant nous, on a des espaces de sensuire, on a une mosaïque de milieux, on distingue les flamands sur la lagune en face de nous. C'est cette richesse de mosaïque de milieu qui permet d'entretenir une certaine forme de résilience, une certaine forme de résistance au projet d'aménagement du territoire. Et le flamand participe justement et est un véritable animal politique puisqu'il invite les humains à réfléchir, à donner du sens à ce territoire camarguais.
Ah, là je vais rejoindre Arnaud Béchet, notre écologue de la Tour du Valat. Alors là, Arnaud, vous avez donc là la longue vue, bien sûr braquée sur nos flamands, et sur les bagues.
Là, on a un flamand bagué, alors 0/FIF. Alors ça, c'est un flamand qui a été bagué en Andalousie, à Fuente de Piedra, donc près de Malaga. C'est une grande lagune qui accueille des dizaines de milliers de flamands en reproduction, de façon assez irrégulière quand il pleut. Et cet oiseau qui est né en Espagne, il vient se reproduire en Camargue, de la même façon que les oiseaux camarguais peuvent aller se reproduire en Espagne, mais aussi en Italie, en Mauritanie ou même jusqu'en Turquie.
Alors quelle est sa particularité de migrateur ? Parce qu'il y a beaucoup de migrateurs.
Alors, ce qui est vraiment original, c'est que le flamand peut voyager aussi bien du nord au sud que d'est en ouest. C'est un grand voyageur et un grand vagabond qui parcourt le pourtour méditerranéen à la recherche de conditions favorables pour nicher. Donc, dès qu'il y a des pluies importantes qui viennent remplir des zones humides qui peuvent être pendant des années très sèches, comme en Afrique du Nord, par exemple, les flamands sont les premiers sur les lieux pour venir s'installer et profiter de ces mises en eau qui sont souvent rarissimes.
Il y a un spectacle assez incroyable, c'est celui, Arnaud Béchet, de la parade.
Oui, alors là, c'est un endroit merveilleux pour observer les parades nuptiales des flamands roses. Donc, c'est parades qui ont lieu tous les hivers, entre le mois d'octobre et le mois de février. Par des belles journées ensoleillées, les flamands entament de véritables danses, des chorégraphies assez spectaculaires, où les deux partenaires, le mâle et la femelle, se disputent la plus belle danse. Ce qu'on a observé qui est très intéressant, c'est que les meilleurs danseurs, donc ceux qui arrivaient à enchaîner différentes postures de façon le plus complexe, ça avait tendance à s'apparier, à se mettre ensemble. Donc les meilleurs danseurs se reconnaissent, et ces meilleurs danseurs, c'est aussi ceux qui vont avoir le plus de chances de se reproduire avec du succès au printemps qui suit. On voit des flamands qui sont plus colorés que d'autres. C'est ceux qui sont a priori plus en forme, parce que la coloration
est un marqueur
de la qualité individuelle, de la bonne santé des oiseaux. Okay. La coloration, elle est obtenue avec des carotènes qui sont aussi impliqués dans la défense immunitaire. Et les flamands ont cette particularité qu'ils sont capables de se maquiller avec des carotènes qu'ils vont trouver dans l'huile qui est présente
près du croupion,
voilà. Et donc ils vont se toiletter et se recouvrir de ce carotène.
Ce qui leur permet d'ailleurs aussi d'imperméabiliser les plumes.
Voilà, c'est ça. Et par la même occasion, ils se maquillent plus ou moins en rose. Et ceux qui ont plus de carotène, donc ils sont en meilleure santé, vont le montrer aux autres pour essayer de se trouver le partenaire le plus performant.
Raphaël, il y a quelques années, vous ne m'auriez pas emmené en fait à Aigues-Mortes.
En effet, Denis, parce que les flamants roses, ils ont niché jusqu'à présent, jusqu'il y a quelques années, ont niché quasi exclusivement dans l'étang du Fangassier, dans les Bouches-du-Rhône, au sud de l'île de Camargue. Et depuis quelques années, en recréant des conditions de variabilité du milieu pour restaurer le fonctionnement hydrologique et les écosystèmes littoraux de ce secteur-là, est apparu un hibou grand-duc, donc une autre espèce sauvage qui s'est invitée dans les lieux et qui a commencé à venir...
Qui est un des prédateurs suprêmes, quand même.
Qui est le prédateur suprême nocturne dans nos contrées. Et cet oiseau-là est venu prédater et donc déranger les oiseaux en train de s'installer dans le site historique de reproduction.
Et lorsqu'ils se lisent une fois, deux fois, trois fois, là, stop.
Et donc, suite à plusieurs années, tous les oiseaux se sont déplacés cette année vers Aigues-Mortes, où on avait préparé leur arrivée avec la création par les Salins du Midi d'îlots spécifiques. Et on avait mis en œuvre les recettes déjà... mise en œuvre dans le passé pour créer la colonie du Fangassier dans les années 60 et 70, à savoir créer un îlot libre de tout prédateur terrestre et avec des nids factices pour que les oiseaux soient stimulés et invités à venir s'installer.
Alors on connaît quand même la tendance très très forte de l'individu, c'est-à-dire qu'il veut rendre les choses prévisibles et donc rendre la nature prévisible. Là aussi, depuis longtemps, donc cet animal nous interroge par rapport à ça.
Effectivement, puisque le flamant rose, on lui a donné les conditions de sa reproduction pendant une quarantaine d'années chaque année, alors que les spécialistes nous disent que la spécificité du flamant rose, qui est un oiseau longivif, c'est-à-dire qui vit longtemps, 40 ans, 50 ans, c'est un oiseau qui se reproduit une seule fois, qui pond un seul œuf par an. Mais si les conditions de milieu sont pas réunies, il attendra l'année prochaine ou l'année suivante qu'elles soient réunies. Ici, pendant chaque année, on a fini par créer des conditions de milieu parce qu'on voulait sauver l'espèce. Aujourd'hui que l'espèce est définitivement sauvée, n'est plus menacée, la question se pose de redonner un peu de liberté à cette nature-là qu'on a mis sous contrôle pendant des décennies. Donc ça, c'est l'écologie du contrôle.
Et celle de réconciliation, c'est laquelle ?
Alors, c'est celle que l'on vit actuellement, qui était également portée par Luc Hoffmann en Camargue très tôt. C'est une écologie qui essaye de concilier activité humaine et conservation de la biodiversité. On a maintes expérimentations ici et là qui montrent qu'on peut très bien produire de l'agriculture, produire des paysages productifs sur le plan agricole et en même temps avoir tout le cortège d'oiseaux et de la biodiversité méditerranéenne. Donc c'est essayer de démontrer la compatibilité entre justement biodiversité, conservation de cette biodiversité et épanouissement des humains.
On va continuer à remplir notre herbier de paysages, vous les entendez, notre bestiaire ailé. Alors c'était, il faisait chaud, hein, j'ai tourné ça donc au mois de juillet, tout à fait tranquillement. Et là, je suis avec René Lamouroux, qui est à la tête du parc ornithologique du Pont de Gaux. Et cette fois-ci, nous sommes dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour à vous, René.
Bonjour Denis. Nous sommes face à votre colonie de flamants roses qui sont là. Je suis un flamant rose. Comment ça fonctionne un flamant rose?
C'est un oiseau qui se contente, vous voyez, de relativement peu.
Oui. Oui, parce qu'il aime bien quand même les eaux saumâtres,
tout
salées.
À fait, les eaux saumâtres, les eaux salées même. Oui. Même dans le parc où nous avons quand même des eaux qui sont relativement douces, eh bien, vous voyez, il stationne très très volontiers. Par contre, il quitte régulièrement le parc pour se nourrir. Soit sur les impériaux, soit sur le vacarès, voilà, où ils vont chercher un petit peu de nourriture supplémentaire.
Et dans les questions un peu inévitables, celle de la couleur. Donc, ils font quoi? Ils bouffent des carottes pour devenir tout rose comme ça?
Ah, c'est ce qu'on raconte. Il faut qu'ils mangent beaucoup de carottes pour être roses. Donc, si vous êtes croyant, eh bien, c'est Dieu qui les a créés, oui. Qui est comme ça. Et effectivement, il leur faut un peu de carotène pour augmenter leur couleur. Chose qu'ils trouvent sur les étangs salés. Évidemment, ici, ils n'en ont pas, mais ils vont régulièrement manger sur des étangs très, très salés. Et donc, on les a toujours avec leur belle couleur dans le parc.
Alors, ça vient d'où? C'est quoi, qu'est-ce qu'ils ramassent? C'est quoi? C'est des algues,
c'est des petits crustacés, l'artémia, et puis également du Dunala et Sanila. Donc là...
Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont quoi, des crevettes?
L'artémia, donc, c'est une crevette, hein, c'est une petite crevette. Et puis, Dunala et Sanila, donc, c'est une algue. Qui est également rouge. Et donc, l'ensemble de ces deux fait que le flamand peut retrouver du carotène pour sa couleur. Quoi.
Ah, alors là, on a un envol.
Oui.
Qui est très beau.
C'est même un couple, regardez. Le mâle est devant, la femelle derrière.
Avec des ailes un peu orangées, là. Hein.
Oui.
On parle de rose, mais en fait, c'est un peu orangé.
Oui, tout à fait. Et encore, maintenant, il faut penser qu'on a perdu un peu des couleurs, ouais. Puisque quand même, le moment où ils sont le plus agressifs au point de vue couleur, c'est avant les parades nuptiales. Donc, puisque là, il va falloir choisir un partenaire. Alors que maintenant, eh bien, je dirais que le soleil a brûlé un petit peu de cette couleur et qu'ils commencent à perdre un petit peu leur belle couleur rose-rouge ouais. Vif, quoi.
Et si on parle du bec et du cou, quand même?
Oui.
Tout ceci n'est pas gratuit dans la nature, donc...
Il y a rien, dans la nature, il n'y a rien de gratuit. Voilà. Hein, donc, ils ont besoin d'avoir... Bon, ils ont déjà de grandes pattes. Donc, pour que leur bec puisse être en contact avec le fond de l'eau, il faut qu'ils aient un cou qui soit égal à leur corps et de leurs pattes.
Alors, si on regarde le bec, on ne peut pas le voir de près, parce qu'ils sont quand même...
Il est très particulier, puisqu'en fait, on pourrait considérer que le flamand mange un peu comme une baleine. C'est-à-dire qu'il fait rentrer de l'eau et des matières dans son bec, puisque la langue va se retirer, on ferme le bec. Comme il y a des petites lamelles de chaque côté du bec, lorsque la langue va revenir dans sa position initiale, donc l'eau va être chassée et les particules de nourriture vont rester accrochées dans les petits mandibules qu'ils ont le bord du bec.
Donc c'est un filtre grâce
à
particules de kératine qu'il a à l'intérieur.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui vous épate, vous, quand même, dans cet oiseau? Alors, bien sûr que c'est l'emblème hein, de la Camargue, des emblèmes.
Épaté, c'est peut-être pas le terme. Ouais. Moi, je suis toujours ému. J'ai maintenant un âge un petit peu avancé. Et j'ai toujours une émotion. Lorsque je vois passer un flamand, j'ai toujours cette émotion. C'est très élégant. Regardez, on a deux mâles là, qui ont le cou dressé. C'est vraiment sublime, quoi.
Oui, il y a une perfection. Là, on est
oui,
dans...
Oui, tout à fait. C'est la perfection.
On est dans un petit tableau, donc, naturaliste, animalier... Il cacarde, hein, c'est ça?
Oui, bah là, regardez là, là on vient d'en entendre.
Ouais.
Mais oui, oui, ils sont souvent très, très bavards et il y a quelques petites chamailles entre eux. Voilà, donc. Mais ils s'expriment.
Et alors, lorsqu'il fabrique son nid, donc en pleine nature,
oui.
Il a besoin de faire des petits touradons, c'est-à-dire des petites buttes.
Oui, tout à fait. En fait, c'est un cône renversé sur lequel on va creuser une petite.
Excavation, quoi.
Excavation, oui. Et dans lequel la femelle va pondre l'œuf unique qu'elle va, ouais. Dont elle va s'occuper avec le mâle d'ailleurs aussi, puisque les deux couvent.
Oui. Il faut qu'il y ait quand même une certaine hauteur, parce qu'il ne faut pas que l'eau puisse inonder.
Oui, alors en général, ce sont des oiseaux qui nichent sur des îlots.
Oui, c'est ça.
Hein, et donc effectivement, il faut que ce cône, souvent, il arrive à monter à 30 cm.
Et sinon, le prédateur quand même du flamand, il y en a plusieurs.
Ben oui, il y en a plusieurs, donc les sangliers, les renards, et puis aussi, quand il y a un œuf qui traîne un petit peu trop, les goélands aussi s'en chargent. Donc il y a également, regardez comme c'est beau, ces deux flamands qui décollent, c'est absolument sublime quoi.
Voilà. Ils attaquent avec les pattes
pour... Oui, tout à fait. Oui, d'abord, ils pédalent.
Ils
pédalent pour s'aider un petit peu, hein, parce qu'il faut penser que c'est quand même un oiseau qui est relativement lourd. Ouais. Et en plus, il faut qu'il déploie ses ailes d'abord, et il faut qu'il s'aide donc avec ses pattes. Alors regardez cet atterrissage, c'est la perfection, quoi. C'est-à-dire qu'il déploie ses ailes, il ne bouge rien du tout, et doucement, il va se poser. On a l'impression de voir un parachutiste qui atterrit là. Ouais. C'est d'une beauté... extraordinaire.
Comment il habille le paysage? C'est-à-dire que... comment il l'embellit?
Écoutez, par leur couleur et par leur élégance. Regardez, même les oiseaux qui ne bougent pas, regardez l'élégance. Ces pattes très fines, ce corps qui est très allongé, ce grand bec, ce grand cou, ce bec très élégant. Ça suffit. Moi, franchement, vous voyez, il y a des oiseaux, là, ça me suffit largement. Ils sont d'ailleurs un peu assez loin, là, une centaine de mètres. Mais regardez même ceux qui mangent, avec ce cou qui s'allonge, qui ondule. Hein, c'est vraiment sublime, quoi.
Alors, Raphaël Madevet, on parle du flamand rose qui revient quand même de loin, mais on peut aussi parler de cette Camargue. Elle aussi, elle revient de loin, parce que quand on regarde, d'un côté, on a eu de l'agriculture intensive, on a le monde industriel, le port de Fos. De l'autre côté, on a eu donc du tourisme de masse des années 70. C'était sacrément encerclé, quoi.
Ah oui, la Camargue, on peut dire que c'est un espace miraculé. En plus, en Camargue, on sait mettre en scène les miracles, hein, comme dans beaucoup de lieux. Et donc, c'est miraculé pour quelle raison? Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu le plan Marshall qui a favorisé le développement de l'agriculture productiviste. Ensuite, qui donc a aménagé les milieux et est venu grignoter les espaces naturels. À l'est, on a dans le golfe de Fos-sur-Mer, on a créé un des plus grands ports européens et de Méditerranée avec une zone industrielle. Et puis, à l'ouest, on a développé le tourisme balnéaire de masse. Et effectivement, la question que le flamand rose nous a posée directement, c'est comment est-ce possible que dans un espace où on a créé des ports, créé des villes nouvelles, créé des boisements, démoustiqué, drainé des espaces pour les rendre viables aux activités humaines, comment c'est possible que le flamand rose se porte aussi bien aujourd'hui, soit devenu l'ambassadeur de la conservation des zones humides. Et donc, du coup, en questionnant cela, en portant cette question, en nous interrogeant, ça nous invite évidemment à questionner l'évolution des politiques de protection de la nature, l'évolution des politiques d'aménagement du territoire.
Et peut-être aussi l'évolution de l'espèce, tout simplement, aussi, non ?
Et effectivement, l'évolution de l'espèce, la question qu'on se pose, c'est de garder en ligne de mire le réensauvagement du monde, c'est-à-dire de garder en ligne de mire, de préserver le pouvoir évolutif, puisque le flamand rose, c'est une espèce qui a évolué au fil des millions d'années dans des paysages et qui s'est adaptée à des paysages extrêmement changeants, riches d'incertitudes, avec une très forte variabilité. Et au fil des années, un peu partout dans le monde, on crée les conditions de reproduction du flamand rose pour attirer les touristes, pour se rassurer aussi sur le statut de conservation de l'espèce, pour en faire aussi un marquage identitaire et un emblème de la qualité des territoires et des produits qui y sont issus. Et dans ce cadre-là, la question qui nous est posée, c'est est-ce que le flamand rose, on va pouvoir préserver son potentiel évolutif? C'est-à-dire, c'est une espèce qui a su s'adapter, comme je disais, au fil des années. Et là, on finit par sélectionner des oiseaux qui s'habituent au confort d'une reproduction annuelle assurée, d'une alimentation aisément trouvée dans un certain nombre de marais et de conditions de mise en eau idéales pour sa reproduction avec sans prédateurs. Et de ce fait-là, peut-être que si on n'est pas vigilant, le flamand sauvage qui vole autour de nous, évidemment, pourrait ressembler de plus en plus à un flamand qu'on découvrirait dans un zoo de Melbourne ou de n'importe quelle grande cité du monde.
Et ils ont retrouvé leur couleur de séduction. Parole de Piaf, ça continue avec un troisième épisode consacré aux corbeaux. En attendant, envolez-vous bien.